Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons entendu ce matin combien en Christ nous sommes une nouvelle créature. Le salut, nous l'obtenons par la foi. On a dit qu'on n'a rien à faire. Merci, la Sainte Ghislaine, de nous l'avoir rappelé. Mais en réalité, nous ne pouvons rien faire pour ce qui est d'avoir le salut. Nous mettons notre foi dans le Fils de Dieu que Dieu a donné. On ne peut pas l'arracher, on ne peut pas le gagner. Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé, tu as le pardon de péché, tu as la vie éternelle et désormais tu mènes une vie nouvelle. Quelqu'un dira, oui, c'est bien, mais dans la vie de tous les jours ici-bas, dans les différentes situations que nous rencontrons, il nous faut savoir quel choix faire, quel chemin emprunter, quelle priorité donner, quelle pensée avoir, quel projet, je dis, quelle parole, quel acte, comment me comporter dans chaque situation, chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Je fais comment moi, pour être sûr que dans tout ce que je fais, Dieu prend plaisir. Qui puisse dire, voici Patrick qui est une nouvelle créature et sa vie témoigne du fait qu'il est une nouvelle créature. Ça ne remet pas en cause mon salut qui est acquis par le sang de Jésus-Christ. Mais si nous sommes une nouvelle créature, alors notre vie concrète doit le prouver. Le livre des Proverbes nous apprend à marcher chaque jour dans la vie. La sagesse, nous dit le livre des Proverbes, commence par la crainte de l'Éternel. C'est le chapitre 1. Non, va pas plus loin avant d'avoir compris ce point de départ. La sagesse dont parle le livre des Proverbes commence, c'est-à-dire le A, le petit A, petit 1, la crainte de Dieu. Sans ça, non, on ne parle pas de la même chose. Nous parlons d'une sagesse inspirée par la crainte de Dieu. Fort de ce fondement-là, comment je marche chaque jour? Le livre des Proverbes nous y aide. Nous continuons notre parcours du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 27. Nous lirons aujourd'hui les versets 3 et 4. Proverbes chapitre 27, versets 3 et 4. La pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'irritation du fou ou l'irritation de l'insensé pèse plus lourd que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère sans retenue. Mais qui tiendra devant la justice? Amen. Proverbes chapitre 1, verset 7, nous dit ceci. Proverbes chapitre 1, verset 7, nous dit ceci. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou ou insensé dans d'autres traduction pour mépriser la sagesse et l'instruction. Le fou dont il est parlé dans ce verset 3 du chapitre 27, la pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'irritation du fou pèse plus lourd que l'un de l'autre. Ce fou, cet insensé, c'est quelqu'un qui est rebelle contre Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui vit avec sa propre norme. C'est quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. C'est quelqu'un qui a ses propres critères, sa propre vérité. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas reprendre par Dieu. Il est dit que la pierre est pesante, un rocher qui est lourd, on ne peut pas le déplacer. Le sable est lourd. Mais alors l'irritation de l'insensé, alors là, C'est plus lourd que le sable. C'est plus lourd que la pierre. L'irritation du fou. Le fou, quand il est irrité, ne se contrôle plus, n'est-ce pas? Et qui sait ce qui peut sortir de ses paroles, de ses actes, une fois qu'il laisse s'exprimer toute sa colère, toute sa violence? Il n'y a rien qui le limite. Il n'en est pas ainsi de celui qui craint Dieu. Puisque justement, sa crainte de Dieu lui donne des limites. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, il se demande est-ce que telle action, telle pensée, telle parole plairait à Dieu. Il essaie de se contrôler, de se contenir, de se maîtriser. Il ne se laisse pas aller à exprimer tous ses désirs, toute sa colère, toutes ses pulsions. Il n'en est pas ainsi de celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître au chapitre 3, Paul décrit à Timothée comment seront les hommes de la fin des temps. Comme on a un petit peu de temps, on peut peut-être lire un peu. 2 Timothée 3, versets 1 à 4. 2 Timothée 3, Paul dit ceci. « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs. » Et le mot qui vient ensuite, dans ma traduction, c'est marqué « violent ». J'ai pas trop aimé cette traduction parce qu'elle n'exprime pas le fait qui sont pas maîtres d'eux-mêmes, intempérants, en bon français, merci. Intempérants, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. Et Pierre, de conclure ce verset 4 en disant, amis du plaisir plutôt que de Dieu. L'insensé dans le livre de Proverbes, c'est celui qui fait ce qui lui plaît. Il fait ce qui lui plaît. Il explose. Tu ne peux pas le contenir. Tu ne peux pas le retenir. Tu ne peux pas lui dire calme-toi. Il n'a pas de compte à rendre. De compte à rendre. Et sa colère, son irritation est lourde. C'est comme un rocher. Tu ne peux pas déplacer. Tu ne peux rien faire. C'est lourd. C'est lourd. Pas de contrôle de soi, pas de maîtrise de soi, pas de possibilité de raisonner. Ce verset nous apprend aussi que la sagesse de celui qui met sa confiance en Dieu, la sagesse de celui qui craint Dieu, consiste aussi à savoir se maîtriser. À savoir se maîtriser, car le sage se demande en toute chose ce qui plaît à Dieu. Et ça lui donne des limites. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Le verset 4 dit ceci. La fureur est cruelle et la colère est sans retenue. Mais qui tiendra devant la jalousie? Il y a des explosions de colère, oh là là, mais qui passe. Il y a des explosions de fureur, mais qui peuvent passer. Mais une jalousie profonde, une jalousie muette, qui ne s'exprime pas par oh, 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 qui s'irrite, comme l'irritation du fou du verset 3. Mais qui s'irrite intérieurement et dans le cœur. Cette jalousie profonde, celle-là, elle est pire que la fureur et la colère. Parce qu'elle ne désarme pas, elle te ronge jusqu'à ce qu'elle la couche de la mort. Nous avons des exemples édifiants dans la Bible. Le premier crime de la Bible, Genèse chapitre 4, est-il nécessaire de le rappeler? Caïn, Abel, les deux font une offrande à Dieu. Dieu agrée davantage l'offrande d'Abel plus que de Caïn. Et oui, et Caïn est profondément jaloux au point qu'il finisse par tuer son frère. Nous avons des exemples édifiants entre Saül et David. En 1 Samuel 18, de retour d'une expédition de guerre, on voit que les femmes chantent à la gloire des guerriers vainqueurs. Et les femmes chantent quoi? Saül a tué 1000 personnes. Ouais! David en a tué 10 000. Ouais! Et la Bible de nous dire que Saül fut profondément irrité de ce qu'on puisse chanter plus les éloges de David que de lui. On connaît la fin de l'histoire. Cette jalousie va tellement le ronger. Il va finir par avoir raison de lui. Vous voyez, quand les mots expriment des sentiments, la jalousie, la joie, même l'intempérance, je veux dire, c'est pas si évident. Le même mot peut exprimer des sentiments bien différents. Les sentiments ne sont pas faciles à exprimer avec des mots. Parce que si tu fais une recherche sur le mot jaloux et jalousie, tu verras que dans l'Ancien Testament, par exemple, le mot jaloux est beaucoup plus appliqué à qui? Qui est jaloux? Dieu est jaloux. Dieu est trop jaloux. Oui, c'est le même mot en hébreu. Et là, tu te dis, mais c'est bizarre quand même. Et tu vois des prophètes dire au peuple que Dieu est irrité à cause de la jalousie qu'il reçoit, fait qu'il ressent par amour pour son peuple. Et là, tu te dis, mais dis-donc. Donc, Dieu peut être irrité. Et Dieu peut être jaloux. Et donc, ce n'est pas l'irritation et la jalousie qui sont mauvaises. Et là, tu te dis, mais c'est bizarre. La jalousie de Dieu est une ardeur qui est en lui à cause de l'amour qu'il ressent pour son peuple. La jalousie de Dieu est une ardeur qui est en lui et qui fait qu'il est irrité quand il voit l'adultère de son peuple qui adore d'autres dieux. Cette jalousie-là n'est pas condamnée. Parce que nous, les êtres humains créés par Dieu, nous avons vocation à adorer un Dieu unique et exclusif. C'est pour ça que la Bible peut dire, Dieu est irrité par la jalousie qu'il ressent quand il voit son peuple adorer des idoles. Maintenant, quand tu penses à la jalousie que tu ressens toi, est-ce que tu penses que tu peux projeter les mêmes sentiments que Dieu? Voici un frère qui vient et qui te dit, tu sais quoi? Oh, merci mon frère en Christ. Je viens de signer un super CDI. 5 000 € par mois. Franchement, je ne m'attendais même pas à ça. Moi, je priais simplement pour que Dieu me donne un petit job et le SMIC. Oh, glorifions Dieu ensemble. Et tu vois toi-même dans ton cœur surgit des sentiments que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas toi qui décides ça. Tout d'un coup, tu te surprends à ressentir quelque chose qui ressemble à de la jalousie. Ça peut te suivre toute ta vie. Envier le travail de l'autre. Envier l'autre parce qu'il est marié. Une fois que vous êtes mariés tous les deux, envier l'autre parce que l'autre il a de plus beaux enfants. Et ses enfants sont intelligents. Même dans les ministères de l'Église. Il se peut qu'il y ait dans l'Église aussi, malheureusement, ça arrive. De la jalousie me montre des responsables d'Église. Parce que tel prédicateur est plus apprécié que l'autre, ou tel est plus diplômé que l'autre. Et là, tu comprends que c'est le même mot jaloux mais qui n'a rien à voir avec la jalousie qui est attribuée à Dieu. Parce que toi-même, tu constates que mais c'est bizarre. J'arrive pas à maîtriser ça. Quand quelqu'un me dit quelque chose, plutôt que de me réjouir pour son bien, tout de suite je pense, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ça me rassure visiblement. Je ne suis pas le seul à ressentir ça des fois. C'est ce que Paul et la Bible appellent le péché. Une puissance qui est comme en toi, que tu ne peux pas maîtriser, qui te pousse tout de suite à ressentir d'emblée la jalousie quand quelqu'un t'annonce qu'il a fait ou réussi quelque chose de bien. Pourquoi? Pourquoi mon cœur réagit-il ainsi? Le livre des Proverbes est là pour que j'ouvre les yeux sur la réalité, non pas des autres, mais la réalité de mon cœur. Oh Seigneur, pourquoi je suis jaloux? Pourquoi? Pourquoi je suis jaloux? Et là, tu commences à comprendre. Où te conduit le livre des Proverbes? La sagesse des Proverbes commence par la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Et tu te rends compte que, Seigneur, voici le sentiment que je prouve naturellement. Et ce sentiment-là, il est évident que Dieu ne l'agrée pas. Te voilà dans une impasse. Parce que la jalousie qui ronge n'est pas une jalousie que tu décides. C'est plus fort que toi. C'est ça. Et c'est partout, comme j'ai dit, c'est partout. Même des fois, entre les enfants, moi j'ai mon fils qui est au collège, qui a des copains, l'autre a eu 14, l'autre a eu 11, et puis tout de suite tu es enclin à dire, mais pourquoi mon fils aussi n'a pas 14? Mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu ne te réjouis pas de l'autre qui a 14 ou 17 sur 20? Pourquoi? Naturellement, tu n'as pas ce sentiment-là. Tu commences à comprendre le venin que le serpent a craché dans le cœur de l'homme. C'est une image, hein? D'accord? Parce qu'il y en a qui pensent que... C'est une parenthèse. Je dis, la Bible est pédagogique. Peu importe. Mais l'image, c'est de dire un serpent a mordu, n'est-ce pas? Et t'as caché un venin. Mais le venin, il agit où? À l'intérieur, n'est-ce pas? Le pasteur Sylvain nous a conduit dans une série sur la Genèse. Peut-être il la poursuivra. Je ne vais pas détailler ici ce passage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu te rends compte qu'il y a une force en toi qui est mauvaise. Et cette force en toi te sépare de Dieu. Et là, quand tu comprends ça, tu es perdu. Parce que tu ne peux pas, tu ne peux rien y faire. La fureur est cruelle. La colère est sans retenue. Mais qui tiendra devant la jalousie? Qui peut m'aider à sortir de là? Et là, tu comprends pourquoi dans la suite de la révélation biblique, il a fallu que ce soit Dieu lui-même, dans sa grâce, qui intervienne là où rien n'était possible. Il a fallu que Dieu intervienne. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Il a donné son Fils Jésus-Christ afin que ceux qui croient en Jésus, Dieu ne les voit plus tels qu'ils sont jaloux, mais Dieu les voit à travers Jésus-Christ, qui lui est le Saint, le Juste. Quand il te voit, il dit, voilà un disciple de mon Fils, voilà un enfant que j'ai adopté en Jésus-Christ. Mais Dieu va-t-il te laisser continuer à persévérer dans cette jalousie? Mais non! Si tu as changé d'identité, tu as changé de vie, c'est pas normal que ta vie soit dominée par ce sentiment de jalousie. Tes choix sont conduits par la jalousie, tout en train de te comparer, à envier, et c'est ça qui conduit tes choix. Non! Et c'est en cela qu'on comprend que si Jésus a ôté notre péché, et que cela nous garantit le salut, entre guillemets, son œuvre n'aurait pas été complète s'il ne nous avait pas donné son esprit. Jean dit de Jésus, moi je vous baptise d'eau. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Celui qui vient, ce Jésus, il vous baptise de Saint-Esprit et de feu. Il n'y a pas deux moyens d'avoir l'Esprit de Dieu. Le seul moyen, c'est de venir à Jésus. Et si tu viens à Jésus, si tu lui dis, Seigneur, voici la jalousie que j'ai dans le cœur, voici l'irritation que j'ai dans mon cœur, aide-moi, il te donne son Esprit. Et c'est son Esprit qui agit en toi. De sorte à ce que, et c'est ça qui est terrible, les mauvais désirs restent malheureusement et tristement présents dans la vie du chrétien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous attriste tellement. Tu es chrétien depuis 10 ans, 15 ans, et puis tu te vois encore en train d'être jaloux parce que l'autre a une grosse maison, une grosse voiture, puis tu te dis, mais oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai appris en 15 ans de vie chrétienne? Mais avec l'Esprit Saint dans ta vie, quelque chose a changé. Tes choix, tes actes ne seront plus dominés par la jalousie. Parce que je les dépose au pied de la croix de mon Seigneur, qui est fidèle pour me donner son Esprit, qui petit à petit produit en moi son fruit. Ce sont des choses spirituelles, mais ce sont des œuvres réelles. Parce que ce sont des choses qui sont garanties par quelqu'un qui en a payé le prix. C'est automatique. C'est pas facultatif. On ne peut pas être un chrétien et ne pas porter le fruit de l'Esprit. Ça n'existe pas. Parce que celui qui te donne l'Esprit, il le donne. C'est pas qu'il est... Non, il le donne en abondance. Si tu crois en lui d'un cœur sincère. On peut être surpris des fois de ressentir de mauvais désirs. Mais notre vie n'est plus dominée par ça. L'Esprit de Dieu seul remplace la jalousie par la bienveillance, la joie, l'amour, qui se réjouit du bien de l'autre. Tu comprends la prédication d'aujourd'hui? Tu vois le cheminement qu'on a fait? Tu comprends l'Évangile? Ces paroles de Dieu sont là pour nous faire comprendre que nous sommes perdus sans lui. C'est ce que la Bible appelle vivre selon la chair. C'est-à-dire dans la nature humaine de toi-même, une puissance en toi que tu ne peux pas maîtriser et tu sais qu'elle te conduit au péché et que Dieu te condamne parce que ta conscience l'atteste et tu ne peux rien faire par rapport à ça. Et Dieu vient à ton secours. Par un sacrifice du Fils de Dieu qui ôte ton péché. Et ce Fils de Dieu te donne son Esprit qui te transforme. Et là, tu te dis, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Avec trois personnes, je suis plus que vainqueur. Tu comprends l'Évangile? Je suis plus que vainqueur. La jalousie ne va pas dominer, c'est ma vie. Oh, dommage que les mauvais désirs viennent de temps en temps, mais dans le nom de Jésus-Christ, je prie qu'ils soient refoulés. Ma vie n'est pas dominée par la jalousie. L'irritation me surprend de temps en temps. Ah, je vais exploser de colère. Le Saint-Esprit me reprend et je me soumets à lui. Et je prie qu'il transforme cela. Et même des fois, des personnes peut-être envers qui on ressentirait de la jalousie un peu. Des fois, on voit le Saint-Esprit qui nous fait des blagues. Le Saint-Esprit fait que la personne que tu jalouses te demande la prière, alors que toi, tu veux l'éviter. Oui, il dit, mais non, mais écoute, je ne veux même pas s'en savoir. Lui, mais il dit, parce que tu es chrétien, prie pour moi. Peut-être, non, mais en fait, non, mais tu... Le Saint-Esprit te dit, non, c'est moi seul qui agis dans le cœur. Et je veux que tu fasses toutes choses pour la gloire de mon nom. La jalousie et l'irritation de l'insensé n'ont pas la place dans le cœur du chrétien qui vit par l'Esprit. On va lire Galates chapitre 5 en conclusion. Galates chapitre 5. Versets 16 jusqu'à 25. Voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Amen.
Amen.
Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, marchons par l'esprit, vivons par l'esprit, laissons-nous conduire par l'esprit. Et que la jalousie, l'irritation n'aient pas de place en nous, mais que Jésus, par son esprit, prenne toute la place. Merci pour ce livre de Proverbes qui nous apprend à marcher dans la vie de chaque jour. Et quand surgissent dans nos cœurs les mauvais désirs, les jalousies, nous savons à quelle porte frapper. Et celui qui nous fait ses promesses est fidèle pour agir et nous délivrer. Et nous viendrons témoigner ici même que l'Éternel est bon, parce que j'étais jaloux et je ne le suis plus. Parce que j'étais irritable et je ne le suis plus. Et pour cela, je rends grâce à mon Seigneur. Je vais prier. Éternel mon Dieu, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Ayant compris le message de la prédication d'aujourd'hui, je ne peux que me réjouir de ce que tu es devant, derrière, à gauche, à droite, pour me garder, sinon sans toi je suis perdu. Merci pour Dieu le Père qui a donné son Fils. Merci pour le sacrifice de son Fils. Merci pour l'Esprit qui agit en moi. Transforme-nous tous. Donne-nous, Seigneur, de mener une vie qui te soit agréable. Donne-nous d'être tes témoins, tes disciples, qui glorifie ton nom en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Très beau message. Le Seigneur nous a vraiment enseigné aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Ce message que nous avons entendu ce matin nous fortifie, nous aide à ouvrir les yeux.